Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Et je reçois aujourd'hui Stephen Perron. Stephen Perron, vous êtes le président de Foncières Magellan, une société de gestion indépendante que vous avez fondée en 2010. Votre credo, c'est l'immobilier tertiaire en région, je le rappelle. Alors, quand on s'était rencontrés il y a de cela à peu près un an, Foncières Magellan pesait moins de 800 millions d'euros. Elle dépasse aujourd'hui le milliard. La crise sanitaire, ça n'a visiblement pas stoppé votre élan.
Bonjour Frédéric. Écoutez, non, la crise sanitaire n'a effectivement pas stoppé notre élan. Depuis l'année dernière, quand on s'était croisés, nous étions effectivement à peu près 800 millions d'actifs sous gestion. On a développé un certain nombre de véhicules d'investissement depuis et on a continué très clairement sur cette lancée de développement de nouveaux produits de niche qui répondent, je l'espère, à un certain nombre de demandes d'investisseurs.
Alors, quels investissements vous avez réalisés pendant la crise sanitaire, pendant le confinement et après ?
Alors, pendant le confinement, nous avons réalisé un peu plus de 60 millions d'acquisitions. Acquisitions qui ont été faites à distance, masquées. On a réalisé quatre acquisitions, notamment des parcs d'activités, immeubles de bureaux, tertiaires également, région parisienne et puis dans le sud de la France. Donc on continue ce trend aujourd'hui avec le ralentissement, technique qui s'est opéré et donc avec une fin d'année qui s'annonce très riche.
Alors, Foncières Magellan, on l'a dit, est majoritairement positionné sur des actifs en région. Déjà, avant la crise sanitaire, l'investissement régional relevait la tête. Il fait aujourd'hui partie des évolutions sociétales accélérées par la crise, avec la volonté de privilégier l'investissement de proximité, la localisation, la relocalisation, même si effectivement les transactions ont un peu baissé sur ce créneau. Comment vous l'observez, cette tendance au quotidien ?
Alors cette tendance de fond, on l'accompagne en fait depuis très longtemps, hein, en tant qu'acteur régional, clairement. On sent clairement également depuis tous les échanges qu'on a pu avoir pendant le confinement sur la fin du mètre carré de bureau, le rejet entre guillemets, double guillemets, de Paris et donc avec un regain d'intérêt pour les provinces et donc les grandes métropoles régionales. Les métropoles régionales confirment très clairement leur dynamique, qu'elle soit démographique, avec effectivement un certain nombre de Parisiens qui peuvent avoir envie d'avoir un petit peu plus d'air dans des grandes métropoles qui vont leur offrir clairement tous les services et puis une qualité de vie également supplémentaire, complémentaire. Donc aujourd'hui, cette dynamique-là, on l'accompagne toujours en étant un acteur de terrain dans nos différentes régions. On est implanté sur Nantes, Paris, Lyon, Strasbourg, bientôt Bordeaux également. Donc on est au plus près des promoteurs, des développeurs, des SEM, donc des collectivités locales. Et donc notre métier, c'est d'accompagner en amont très clairement tous ces projets renouveau urbain pour lesquels on se positionne et aujourd'hui avec pas mal de succès.
Est-ce que le développement du télétravail, c'est un phénomène essentiellement parisien ou est-ce qu'on le retrouve dans les grandes villes régionales ? Aussi marqué en tout cas.
Alors le télétravail, on a beaucoup glosé sur le télétravail pendant le confinement. On a vu beaucoup d'articles. On continue aujourd'hui encore à en lire un certain nombre. Le télétravail, il existait avant le confinement, il faut le rappeler quand même. Il n'était pas institutionnalisé comme il l'est aujourd'hui. Le télétravail aujourd'hui, ça devient finalement un mode de travail plus institutionnel et plus ancré. Aujourd'hui, nombre d'entreprises, grandes entreprises, font le choix effectivement d'instaurer 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Et on a vu quand même, à contrario aussi, le souhait très clairement des salariés de revenir au travail, sur le lieu de travail, qui reste le lieu très clairement de la stratégie, de la dynamique, de l'identité de la société. Donc ce n'est pas la fin du mètre carré de bureau, clairement. Et donc nous, on est vraiment dans cette optique. Et on voit bien qu'il y aura un certain nombre d'aménagements, bien évidemment, à opérer, un certain nombre de services aussi à apporter. Il va falloir donner envie aux salariés de venir au travail. Donc c'est aussi un nouveau paradigme très clairement pour les entreprises. Et beaucoup de directeurs immobiliers se sont saisis du sujet aujourd'hui. Donc il y a un chantier qui est ouvert. Donc le télétravail, oui, mais ce n'est bien évidemment pas un mode de travail à 100% clairement pour l'ensemble des salariés.
Alors il y a une autre tendance qui a été exacerbée par la crise. C'est donc tout ce qui est investissement immobilier durable.
Oui.
Vous avez lancé il y a quelques mois un fonds dédié à la rénovation et à la restructuration des bâtiments obsolètes. Alors, quel a été l'accueil des investisseurs à ce fonds et est-ce que vous avez déjà réalisé des opérations ?
Alors, ce fonds l'a lancé effectivement avant le confinement. Il répondait à une logique, j'allais dire, économique, sociale, sociétale, qui était de dire aujourd'hui, on a un parc immobilier qui est globalement vieillissant, qui est globalement aussi bien positionné dans les grandes métropoles, donc avec tous les services, transports et autres qu'on peut attendre. Et donc on a lancé ce FPCI Immoval 2019, effectivement, dans cette logique qui est d'acheter des actifs immobiliers obsolètes pour les faire finalement devenir mieux et en fait compte avoir aujourd'hui des labellisations en termes de confort, qualité de vie au travail et normes environnementales, bien sûr.
Vous avez levé combien sur ce fonds déjà ?
On a un objectif de 30 millions de collectes et on en est aujourd'hui à peu près de 12-13 millions d'euros aujourd'hui, donc avec un effet de levier de l'ordre de 60-70%, donc avec un fonds avec une taille cible de 100 millions.
Alors l'actualité, donc ça rentre à dire dans cette actualité, c'est le label ISR qui est enfin sorti et qui s'applique au domaine de l'immobilier. Vous avez d'ailleurs annoncé un second semestre 2020 placé sous le signe de l'ISR pour Foncière Magellan. C'est quoi votre vision de l'ISR ?
Alors l'ISR aujourd'hui, l'ISR c'est un grand sujet. L'ISR c'est allier finalement un investissement avec donner du sens à son investissement. Donc il peut avoir aussi beaucoup de marketing autour de ce label. On l'attendait tous, je pense tous les acteurs immobiliers l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Donc il est sorti le 23 ou 24 juillet. Aujourd'hui clairement c'est positionner en fin de compte les actifs dans une logique qui se veut socialement responsable. Ça sous-entend beaucoup d'éléments. Et l'idée, ça va être de matérialiser finalement et concrétiser tout ça par des critères très précis, ce qu'on fait aujourd'hui depuis quelques mois maintenant.
Alors justement, vous avez plusieurs fonds. Quels sont ceux pour lesquels vous avez demandé la labellisation ?
Alors, plusieurs fonds. Le FPCI dont je parlais précédemment va effectivement prétendre à ce label. Nous avons également la foncière des praticiens également qui prétend également à son label puisque nous concentrons en fin de compte une partie des ressources à trois associations et fondations que nous avons sélectionnées. Et puis les OPCI aujourd'hui sur lesquels nous travaillons en région ont vocation clairement à acheter des immeubles qui soient aux dernières normes environnementales, mais pas uniquement, et donc de travailler également sur des actifs qui peuvent être aujourd'hui obsolètes et qu'on va progressivement augmenter, repositionner finalement dans le marché.
Un label, c'est toujours très technique. Quels sont en fait les points de détail qui rendent l'obtention de ce label éventuellement compliquée ?
Alors ce label aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est déjà que un, c'est nouveau, et donc on a une certaine, j'allais dire, pas forcément en compréhension parfaite aujourd'hui de ce qui va être demandé. Les certificateurs aujourd'hui vont s'attacher finalement à deux, il y a à peu près 8 indicateurs, donc 4 qui seront obligatoires, 2 indicateurs obligatoires qui sont dans le domaine de l'environnement, un indicateur obligatoire dans le domaine social, qui sera à choisir parmi deux thématiques suivantes, à savoir mobilité et santé et confort des occupants, et un autre indicateur obligatoire qui sera dans celui de la gouvernance et notamment dans le choix des prestataires qui seront sévèrement sélectionnés.
Mais vous, concrètement, sur quel sujet particulier vous pensez avoir le plus de difficultés à obtenir le label ?
Le sujet de la gouvernance et le choix des prestataires ne devrait pas être très compliqué. Aujourd'hui, sur la question de la mobilité, c'est également quelque chose qui est une thématique qui est très clairement tout à fait contrôlable, j'allais dire, et mesurable. Et dans l'environnement, à savoir l'énergie, l'émission de gaz à effet de serre également sur un bâtiment, ça se mesure clairement. Donc aujourd'hui, ça va être dans la capacité finalement à suivre et à analyser ces critères tout au long de la durée de vie des actifs et du fonds. La difficulté est plutôt dans l'outil finalement de reporting qu'on va pouvoir créer, développer, ce à quoi on s'attache aujourd'hui chez Foncière Magellan.
Un grand chantier en cours. Donc je voudrais qu'on revienne sur la SCPI que vous avez évoquée, Foncière des praticiens. Où est-ce qu'elle en est en termes de développement ? Est-ce que vous tiendrez l'objectif d'un taux de distribution de 5,10% en 2020 ?
Alors, on tiendra, oui, effectivement, ce taux de distribution de 5,10% en 2020. Effectivement, il sera tenu. Aujourd'hui, la Foncière des praticiens, qui a remporté d'ailleurs la semaine dernière, le prix de la pierre papier catégorie espoir. Donc c'est bien parce que ça nous rajeunit, j'allais dire. C'est surtout un encouragement finalement sur une SCPI qui est assez différenciante et différenciée clairement sur le marché. La thématique effectivement santé qui est très porteur et qui répond aussi à une thématique clairement ISR aussi, qui est le maillage territorial, finalement, médical, aujourd'hui, à ce à quoi on va s'employer, via l'acquisition, en fin de compte, de maisons médicales, maisons de consultation autour des cliniques, et partout en France.
Alors, donc 5-10 en 2020 confirmé. Globalement, aujourd'hui, le monde de l'immobilier collectif est en pleine évolution. Le nombre de sociétés de gestion qui se créent ne s'est pas tari malgré la crise. C'est plutôt positif. Vous-même, vous avez des projets de développement, j'imagine, et peut-être des projets de développement externe. Et si oui, sur quel type de cible ?
Alors, le monde des sociétés de gestion ne s'est pas tari, non. Il y a même eu plusieurs sociétés de gestion qui se sont dernièrement créées. Nous, aujourd'hui, après 10 ans de croissance organique qui nous a amené aujourd'hui là où on en est, clairement, on a ressenti le besoin, effectivement, de procéder à des acquisitions de la croissance externe. Ce à quoi nous nous sommes employés, et le confinement était d'ailleurs été très, 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 j'allais dire, prolifique sur le sujet. Et donc, on annoncera fin octobre, effectivement, une prise de participation dans une autre société de gestion qui va nous permettre de développer finalement notre typologie d'actifs. Et il y a d'autres sujets qui sont également en cours. Donc on est très clairement effectivement positionné en croissance externe et également en architecture ouverte aussi, comme on a toujours fonctionné avec d'autres sociétés.
Bon, on reviendra sur le sujet quand ça sera officiel. Une dernière question juste pour évoquer les impacts de la crise sur les rendements et la valorisation des actifs. Est-ce que les bureaux en région sont plus touchés ou quels sont les actifs les plus touchés aujourd'hui ?
Alors, les actifs les plus touchés aujourd'hui sont clairement les actifs qui sont aujourd'hui en blanc, c'est-à-dire sans locataire. La crise aura eu quand même un effet majeur qui est que, bien évidemment, les grands locataires, les grands utilisateurs aujourd'hui sont, on va dire, un peu plus sur la réserve, bien évidemment, et ont relégué leur plan de développement quelquefois à fin 2020, début 2021. Donc on voit bien que les transactions, le marché locatif, bien évidemment, est en baisse. Hein, ça serait, c'est un lieu commun de le rappeler, mais effectivement... Donc aujourd'hui, les actifs en blanc sont clairement, un peu relégués au second plan. Ça nous permet aussi de travailler de manière, j'allais dire, et d'assainir peut-être un peu le marché, à savoir, on n'achète pas un actif qui est en blanc sur lequel on prend un risque locatif au même prix, ce qui était quand même globalement ce qui se passait il y a encore quelques mois. Donc aujourd'hui, les actifs en région se portent toujours plutôt bien, dès lors qu'on a bien évidemment des locataires solides, ce qui est notre cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'observe clairement pas de baisse de rendement, clairement, par rapport à ce qu'on pouvait voir avant le confinement. Donc les beaux actifs sécurisés, que ce soit Paris QCA où on a un EPCI IMO 18 également qui intervient, pas de baisse de valeur, clairement, et même une compétition qui reste toujours assez forte malgré un recul des institutionnels sur ce secteur. Et en région, la dynamique reste pleinement enclenchée.
Donc pas de baisse de valeur, mais une augmentation des primes de risque. Stéphane Perron, merci.
Merci.
Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.